Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, Red Garland avec Pierre Christophe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 117e émission du Matin des musiciens jazz du mardi. Aujourd'hui, une fois encore, nous allons nous pencher sur l'art d'un pianiste malheureusement délaissé, sinon oublié, alors qu'il connut une certaine gloire en son temps, mais il est vrai que sa carrière a souffert de quelques avanies. Je veux parler de Red Garland. Originaire de Dallas, où il est né en 1923, contemporain d'Errol Garner et de Bud Powell, le jeune Red Garland vient tard à la musique, menant en parallèle une carrière de boxeur. Il est d'abord clarinettiste et saxophoniste avant d'adopter le piano. Ceci explique sans doute certains aspects de son phrasé de main droite. Professionnel dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est engagé par Hot Lips Page, puis par Billy Eckstein, où il fait la connaissance des jeunes trublions du bebop, avant de devenir le pianiste maison du Downbeat Club de Philadelphie, où il se lie d'amitié avec un jeune saxophoniste du nom de John Coltrane. S'il n'existe aucun témoignage de son passage au sein d'un quintet co-dirigé par Roy Eldridge et Coleman Hawkins, on peut l'entendre aux côtés de Charlie Parker à Boston en 1953. On y détecte déjà, dans son jeu, un goût prononcé pour les block chords. Mais il faut attendre sa première séance d'enregistrement officielle, sous le nom de Miles Davis, en 1955, pour apprécier pleinement la qualité de son toucher et la finesse de son accompagnement. Le quintet du trompettiste, en ces années-là, doit beaucoup à son sens de l'espace, à la légèreté de ses ponctuations, à la beauté plastique de ses conceptions sonores. En ce sens, Red Garland, davantage encore qu'Ahmad Jamal, se révèle le chaînon manquant entre le bebop de Bud Powell et le piano moderne de Bill Evans. Et pour évoquer ce musicien sous-estimé, trop tôt disparu de la scène et mort dans l'indifférence générale en 1984, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans cette émission le pianiste Pierre Christophe. Bonjour Pierre.
Bonjour Arnaud.
Alors je dois signaler que c'est une journée un peu spéciale sur France Musique puisque cet après-midi, on va vous retrouver entre 14h et 16h dans le concert de l'après-midi d'Anne-Charlotte Raymond puisque vous avez donné un concert samedi dernier ici même à la Maison de Radio France, pas dans un programme exclusivement consacré à Red Garland.
Non, pas du tout d'ailleurs.
Mais il se trouve que Red Garland fait partie des pianistes que vous affectionnez particulièrement, tout comme Errol Garner ou Jackie Bayard, dont vous avez été l'élève. Qu'est-ce qui vous a attiré vers Red Garland? Est-ce que vous l'avez connu en même temps qu'Errol Garner ou un petit peu après?
Un tout petit peu après, mais c'est vrai que Red Garland fait partie des premiers pianistes de jazz que j'ai découvert, puisque Red Garland a participé à quelques grands classiques de l'histoire du jazz. Il est sur des albums Columbia et Prestige de Miles Davis des années 50, sur quelques albums de John Coltrane et aussi sur le Tenor Madness de Sonny Rollins. Et comme les disques que je viens de citer sont un peu des disques de discothèque de base, de l'apprenti jazzman et aussi de l'amateur de jazz, j'ai découvert Red Garland très tôt finalement.
Oui, quand on est pianiste, on écoute bien sûr Miles Davis, Coltrane et Rollins, mais on écoute aussi son pianiste.
Ses pianistes, et c'est vrai que Red Garland, Wynton Kelly et Bill Evans sont des pianistes qui ont joué, pas par hasard d'ailleurs, on verra dans cette émission chez Miles Davis.
Ici, Red Garland est en trio avec Art Taylor à la batterie et Paul Chambers à la contrebasse. Nous sommes en 1957. Thank you. La chanson de Alan Lerner et Frédéric Love, Almost Like Being in Love, c'était en 1957. Le trio du pianiste Red Garland avec Paul Chambers à la contrebasse et Art Taylor à la batterie. On entend bien ici le sens mélodique très affirmé de Red Garland et puis ces petites ponctuations de main gauche extrêmement précises, extrêmement belles aussi sur un plan sonore. On y reviendra bien sûr, Pierre-Christophe. Mm-hmm. D'où vient Red Garland ? C'est un Texan ?
Exact. Il est né à Dallas en 1923. Et il a un parcours assez atypique pour un musicien et pour un pianiste aussi, puisqu'il n'est pas du tout intéressé par la musique quand il est enfant. Il est passionné de boxe. Et c'est à l'âge de 17 ans, donc assez tardivement, que son père lui offre une clarinette. Voilà. Mais Red Garland s'intéresse vraiment à la boxe et devient professionnel assez jeune, catégorie poids léger. Et jusqu'en 1944, il sera boxeur.
À l'âge de 18 ans, il fait quand même une rencontre, celle de Buster Smith. Alors là, c'est à Kansas City. Et Buster Smith, c'est un musicien quelque peu oublié aujourd'hui, mais il a été le mentor de Charlie Parker tout de même.
Oui, c'est une rencontre déterminante. Déjà, Red Garland abandonne la clarinette qu'il n'aimait pas trop pour le saxophone alto. Et comme vous venez de le dire, Buster Smith, c'est une légende. Il est saxophoniste chez les Blue Devils de Benny Moten. Mmh. Et c'est le mentor et le professeur aussi du jeune Charlie Parker. Et Red Garland dit de Buster Smith qu'il était l'art et tout du saxophone. Ouais. Donc vraiment, il est tombé chez un très, très grand maître. Et avec ce grand saxophoniste, il apprend pas seulement, bien sûr, le saxophone, mais aussi la théorie, l'harmonie, l'arrangement, l'improvisation, etc.
Le fait qu'il ait été saxophoniste est certainement important pour son sens mélodique, évidemment. Mais en fait, il va passer au piano. Et d'ailleurs, il va commencer à jouer du piano de manière assez professionnelle chez Buster Smith, qui va l'engager.
Red Garland se met au piano pendant son service militaire. Donc on peut dire qu'il est autodidacte, il prend quand même quelques conseils auprès de collègues, mais il est principalement autodidacte et ses professeurs sont les disques. Hein. Donc il relève tout Count Basie, Art Tatum, Nat King Cole est son premier héros et on va l'entendre bien sûr beaucoup d'influence de Nat King Cole dans son jeu. Par la suite il y aura Errol Garner et Bud Powell, mais pendant la Seconde Guerre mondiale c'est surtout Nat King Cole son influence principale.
Il quitte Dallas en 1945, il est embauché par Hot Lips Page et puis ensuite par Billy Eckstein. Ça c'est important parce que dans l'orchestre du chanteur Billy Eckstein, il y a des jeunes boppeurs.
Oui, il y a Miles Davis, Art Blakey, Dizzy Gillespie, Fats Navarro, même Charlie Parker, enfin tout le monde y passe à un moment ou un autre. Dexter Gordon, donc c'est une école incroyable, on imagine, parce que c'est un orchestre qui n'a pas beaucoup enregistré.
Il côtoie les meilleurs de sa génération et ceux qui ont vraiment inventé le bebop. Il va rester pendant 2 ans à Philadelphie comme pianiste maison du downbeat. Et là, il rencontre un jeune musicien qui a 3 ans de moins que lui, c'est John Coltrane. Ça va être important aussi, j'imagine.
Tout à fait, ils sont voisins, ils habitent à 2 rues l'un de l'autre. Red Garland raconte qu'il va tous les jours chez John Coltrane pour travailler des morceaux, travailler l'improvisation. Enfin, ils sont très très amis et très liés à cette époque-là.
En 1953, il est au Storyville à Boston et Charlie Parker débarque. Il va faire un concert avec la rythmique locale, donc avec Red Garland au piano.
Cette émission de radio de Charlie Parker en 1953 est jusqu'à aujourd'hui, hein, est le premier exemple du jeune Red Garland.
Ça s'appelle Out of Nowhere, Charlie Parker accompagné par Red Garland au piano, Billy Briggs à la basse et Roy Haynes à la batterie en mars 1953 au Storyville de Boston. Thank you.
So it's time to take our leave from Storyville for tonight. You've been listening to the Charlie Parker Quartet with Red Garland on piano.
Storyville de Boston en mars 1953, Charlie Parker avec Roy Haynes, Billy Briggs et au piano Red Garland que l'on entend ici à la fin de son solo joué en bloc chords, donc en bloc d'accords avec des blocs aux deux mains, ce qui est très rare chez lui.
C'est un système qui a été mis au point notamment par George Shearing. Et George Shearing est très célèbre depuis 1949 à peu près. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans tous les enregistrements officiels de Red Garland, on n'a pas d'exemple où il fait ce genre de bloc cord aux deux mains. Il va plutôt jouer, on va entendre tout de suite, un bloc cord à une main. C'est étonnant de l'entendre jouer dans ce style-là, parce qu'il ne l'a pas poursuivi, en fait, alors, cette voix.
On est en 1953, c'est pas non plus un gamin, il a 30 ans, Red Garland. Oui. Il a déjà accompagné énormément de solistes importants de l'histoire du jazz.
Oui, il a accompagné Lester Young, il a joué pendant 2 ans dans le quintet de Coleman Hawkins,
Roy Eldridge.
Malheureusement, il n'y a pas de disque parce que quand ces vedettes enregistrent, les producteurs choisissent des pianistes plus connus et puis qui habitent à New York.
Ah oui, c'est ça, parce que Red Garland, il n'est pas encore à New York.
Non,
c'est pour ça qu'il n'a pas la notoriété qu'il mérite.
Exactement.
À 30 ans.
Ouais. Il est basé d'abord à Philadelphie pendant 2-3 ans, ensuite Boston, et finalement, c'est Miles Davis qui va le poussé à s'installer à New York en 1955, en gros.
Et c'est la première séance officielle pour Red Garland en 1955 avec Miles Davis.
Exactement, c'est sa première séance officielle et personne ne le connaît, à part les musiciens.
Évidemment, on découvre cette finesse dans l'accompagnement, cette magnifique légèreté du toucher. On n'est pas du tout dans l'optique qui va bientôt être déterminante dans ce jazz qui commence à apparaître, le hard bop. On n'est pas du tout dans l'esprit de Ras Silver ici, on est dans un toucher beaucoup plus fin.
Oui, et déjà dans le Out of Nowhere de Charlie Parker qu'on vient d'entendre, on a entendu l'influence de Bud Powell, mais avec déjà une certaine retenue, une certaine élégance, un toucher qui vient plus de Nat King Cole et Dunk Jones. Et chez Miles, on va entendre quelque chose d'autre encore, on va entendre quelque chose de neuf, un son que Red Garland met au point, probablement dans ses années 50, un son de bloc cord qu'on va entendre tout de suite.
Philip Joe Jones à la batterie, Oscar Pettiford à la contrebasse, Miles Davis bien sûr à la trompette et Red Garland pour sa première séance d'enregistrement officielle. C'est le 7 juin 1955, Green Haze. Climat du quartet de Miles Davis en juin 1955. avec à ses côtés Red Garland, pour la première fois en tout cas dans un studio d'enregistrement, Oscar Pettiford et Philly Joe Jones à la batterie. Ce n'est pas encore le quintet de Miles Davis, mais on va très vite y venir. Ici, on entend bien déjà les qualités de Red Garland.
Oui, il y a quelque chose de neuf. Déjà, il y a un son dans ces blocs-cordes main droite qui est très personnel, avec cette main gauche qui accompagne en parallèle ce que fait la main droite. Et on peut dire aussi que le toucher est très délicat et qu'il accompagne avec beaucoup de finesse aussi.
Miles Davis cherche, il essaye plusieurs formules avec des rythmiques différentes, avec des saxophonistes différents. Et finalement, pendant quelques années, il va trouver un équilibre avec le jeune John Coltrane. Et c'est Red Garland qu'il avait côtoyé à Philadelphie, tout jeune, qui va le recommander à Miles Davis.
Tout à fait. Donc, c'est pas exactement la même anecdote dans l'autobiographie de Miles, mais dans les interviews de Red Garland dit que c'est lui qui a présenté John Coltrane à Miles
Davis. Ce qui semble plus vraisemblable.
Voilà, ça semble plus vraisemblable, parce que vraiment, ils ont habité tous les deux à Philadelphie fin des années 40. Bon, peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans ce quintet de Miles, il n'y a que des inconnus à part Miles Davis. Parce que même Philly Joe Jones, en 55, n'a pas enregistré grand-chose.
Et c'est Miles Davis qui découvre aussi le jeune contrebassiste Paul Chambers. Tous les cinq sont réunis début 1956. On les retrouve ici dans Diane. C'est une occasion aussi d'apprécier chez Red Garland son jeu avec très peu de notes, dans le jeu en single note, le jeu mélodique autrement dit. Mm-hmm. Et puis ensuite on verra bien la façon dont l'influence de Nat King Cole reste prégnante dans son jeu en bloc cordes. On est assez loin du jeu bebop de Bud Powell ici.
Oui, c'est vrai que là, on va surtout se concentrer à la fois sur sa façon d'accompagner. Dans ce long extrait de Miles Davis, on va entendre quand même un pianiste qui a un sens de l'espace très défini. Hein. Vraiment, il prend son temps. Il y a une ponctuation rythmique très originale. Et c'est une nouvelle école de piano qui sera reprise par Wynton Kelly, Bill Evans. Bien sûr, on va citer Ahmad Jamal, on ne peut pas ne pas le citer. Mais on va en parler un peu plus tard. Il apporte quelque chose au son de l'orchestre. Mm-hmm.
Coltrane, enregistré en mai 1956 par le quintet de Miles Davis avec John Coltrane au ténor, Red Garland au piano, Paul Chambers à la contrebasse, Philly Joe Jones à la batterie, avec un très très beau solo de Red Garland, très personnel, même si évidemment on imagine qu'il a écouté d'autres pianistes avant lui et qu'on peut l'entendre dans son jeu de piano. Miles Davis disait de Red Garland qu'il lui apportait à la fois un petit peu de Jamal, un petit peu de Garner, c'était ça la citation exacte?
Oui, alors en préparant cette émission, j'ai retrouvé la citation exacte dans l'autobiographie de Miles Davis. Il a beaucoup crié sur tous les toits que Red Garland devait jouer comme Ahmad Jamal ou qu'il l'avait poussé à jouer comme Ahmad Jamal. Mais il y a une certaine page dans son autobiographie où il est un peu plus honnête. Alors je vais citer exactement ce qu'il dit et je pense que c'est très juste. Donc Miles Davis, deux points, ouvrez les guillemets. Red Garland m'a apporté un toucher léger à la Ahmad Jamal, un petit peu d'Errol Garner et ajouté sa propre marque.
Ouais. Pierre-Christophe, si vous voulez bien rejoindre le piano du studio 119 ici pour le matin des musiciens sur France Musique, on va peut-être reprendre le premier titre qu'on a entendu au début de cette émission. C'était Almost Like Being in Love, une chanson extraite de la comédie musicale My Fair Lady. Et comme ça, on peut peut-être prendre quelques exemples sur cette chanson, notamment de la manière dont il travaille les block chords, le jeu en accords.
Donc Red Garland utilise beaucoup de block chords main droite qu'on vient d'entendre dans ce morceau à l'instant qui s'appelait Diane, mais on l'a entendu bien sûr dans le premier titre Almost Like Being in Love. Donc ces block chords main droite, on les a déjà entendus bien sûr dans cette émission, notamment on va dire le premier musicien qui les utilise, c'est bien sûr Errol Garner. Alors Errol Garner, son système, déjà la mélodie est jouée à la main droite uniquement en octave. Dans cette octave, il va placer les accords. Donc l'harmonie, qui en théorie est à la main gauche, va se retrouver à la main droite, bloquée par la mélodie, d'où le nom de block chord. Donc je mets l'harmonie au milieu. Donc les fameux block chords main droite qu'on entend chez Red Garland viennent de Garner, mais évidemment quand on entend Errol Garner, on entend cette fameuse main gauche aussi en dessous. Donc, quand on entend ça, bien sûr, on se dit « Ah, c'est Errol Garner », parce que la main gauche, tout de suite, nous donne bien sûr la preuve. C'est Errol Garner. Mais si on enlève la main gauche, si on enlève cette main gauche d'Errol Garner et qu'on n'écoute que la main droite, on se rapproche vraiment de ce que fait Red Garland. Alors, il faut dire tout de suite que Red Garland fait ses block chords un tout petit peu moins remplis que Errol Garner. Ils sont joués avec un toucher différent aussi, parce que Errol Garner a un toucher très percussif, alors que Red Garland a un toucher, disons, plus léger. C'est un autre équilibre.
Qui viendrait plus de chez Nat King Cole, par
voilà,
exemple.
Ça vient plus de Nat King Cole. Mais c'est vrai qu'il met un peu moins de notes à l'intérieur de cette octave, parce que on va dire que Garner, il charge bien, il essaie d'en mettre le maximum possible. Garland, il en enlève un petit peu. Souvent, il fait fondamental, quinte sixte, il en met moins. Mais quand même, ça vient de Errol Garner. Voilà. Et l'idée qui est géniale chez Red Garland et qui fait qu'on le reconnaît tout de suite, c'est qu'il ne va pas faire une main gauche à la Errol Garner, il va faire une main gauche très simple, très moderne, 3-4 sons, pas plus, qui va épouser rythmiquement tout le phrasé de la main droite, ce qui donne le son Red Garland.
Main droite, on a vraiment le système du block chord.
Exact.
À la main gauche, on a des accords d'accompagnement, mais qui sont en homorythmie avec la main droite.
Exactement. Donc, quoi que fasse la main droite, la main gauche est l'ombre de la main droite. Elle épouse exactement le phrasé. On a l'impression d'avoir aussi un big band.
Mais ce ne sont pas des block chords à la main gauche.
Mais ce ne sont pas des block chords. Voilà. La main gauche est très intéressante, parce que cette main gauche 3-4 sons, si je la fais toute seule, donc une main gauche 3-4 sons qu'on va retrouver chez Bill Evans, qui va adopter cette technique de main gauche. Alors, imaginons Bill Evans qui jouerait Almost Like Being in Love. Donc, il utiliserait en gros la même main gauche, mais au lieu de faire un block chord main droite, comme on vient d'entendre, il va jouer plus en single note, en note seule, et ça va donner ça. «
Alors, j'ai fait exprès de suivre rythmiquement ce que faisait la main droite avec ma main gauche, puisque quand on entend Bill Evans, on entend ce système qui vient de Red Garland, c'est-à-dire cette main gauche qui épouse la main droite rythmiquement. Mais par contre, effectivement, il ne fait pas de bloc chord. Bill Evans ne fait pas de bloc chord main droite. Lui, quand il improvise, il joue en single notes. Mais la main gauche vient de cette école de Red Garland, c'est-à-dire une main gauche 3-4 sons qui suit rythmiquement ce que fait la main droite. Par exemple, quand il improvise, c'est ce qu'il va faire. Donc ça, vous avez tous reconnu un peu le style de Bill Evans. Donc le style de Bill Evans, la façon de jouer de Bill Evans vient de Red Garland, puisque c'est Red Garland le premier qui a eu cette idée de main gauche qui épouse le phrasé de la main droite, ce qui est absolument une idée géniale. On a l'impression que les deux mains du pianiste ne sont plus qu'une seule main, en fait. C'est assez étonnant. Ça, c'est le deuxième point que je voudrais illustrer. Le troisième point qu'on va illustrer maintenant, c'est cette fameuse ponctuation main gauche dans les solos. Alors, vous avez entendu dans le morceau précédent et aussi dans Almost Like Being in Love, quand Red Garland improvise ou même quand il joue un thème en single notes, la main gauche a une ponctuation très spéciale. Essayons. Alors, par exemple, je vais refaire, mais sur le pont de ce morceau-là. Etc. Donc, on peut entendre cette ponctuation en accompagnement, on peut entendre cette ponctuation en improvisation, et cette ponctuation main gauche, qu'on peut appeler la syncope, d'où vient-elle ? Cette main gauche, comme par hasard, elle vient de Errol Garner à nouveau. Alors, vous allez me dire, mais non, mais Errol Garner, c'est la main gauche sur tous les temps. Alors, bah oui, effectivement, revenons à Garner. Garner met la main gauche sur tous les temps, mais il utilise une petite syncope à un endroit très précis. Revenons à Garner. Alors, je vais compter 4 temps. 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, etc. Donc on entend bien cette syncope. Effectivement, Garner fait l'accord sur tous les temps, mais il y a cette petite syncope qui fait son style. Et cette syncope, elle est bien sûr après le 2 et après le 4.
Ou juste avant le 1 et juste avant le 3,
oui, c'est
si,
ça.
Si on anticipe.
Mais... Tout à fait. Donc qu'est-ce que fait Red Garland ? Il va utiliser juste la syncope sans jouer sur tous les temps, ce qui fait 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4.
En fait, donc, il joue le « et »,
voilà,
ça,
il joue le
systématiquement,
et, tout à fait.
On est en l'air.
Là aussi, ça vient de Garner. Évidemment, on n'est pas dans Errol Garner, parce que Errol Garner fait l'accord sur tous les temps comme un guitariste. Mais cette syncope qui est magique, c'est un peu un trampoline, cette main gauche. Elle est discrète, mais en même temps, elle rebondit. Et c'est vrai que le jazz, c'est une musique qui swing. Et pour que ça swing, il faut que ça rebondisse.
Merci Pierre-Christophe pour ces exemples au piano, des illustrations musicales que l'on va retrouver aussi dans les ballades que Red Garland va graver sous son nom. Par exemple, ce « Very Thought of You » enregistré en trio avec Paul Chambers et Art Taylor en 1957. Thank you. The Very Thought of You, Red Garland en trio avec Paul Chambers et Art Taylor en mars 1957. Une très belle ballade et le style de Red Garland pourtant ne va pas plaire à tout le monde, Pierre-Christophe. Il sera parfois taxé par la critique de pianiste de cocktail ou de pianiste de bar. On en connaît d'autres qui ont subi les mêmes avanies.
Oui, Bill Evans aussi, à ses débuts. Effectivement, on lui reproche d'être trop joli.
D'une certaine manière, Pierre-Christophe, on peut dire que Red Garland, c'est le chaînon manquant entre Bud Powell, le bopper, et Bill Evans, le pianiste qui annonce la modernité. C'est un peu ça?
C'est tout à fait ça. Red Garland, c'est aussi un pianiste qui a un don mélodique inépuisable, comme on vient d'entendre sur cette ballade, où il alternait les single notes et ses fameux block chords, mais quand même toujours avec un goût très sûr.
On l'entend jouer quand même du Bud Powell, ou dans le style de Bud Powell parfois. Il enregistre d'ailleurs des morceaux bebop à des tempi très rapides.
Exactement, et je pense qu'il a voulu mettre aussi les points sur les i en faisant ça, en disant « mais attendez, si je veux jouer vite et sur des morceaux très difficiles, je peux vous le prouver. »
C'est le cas sur ce Constellation de Charlie Parker en 1956, toujours avec la même rythmique, Paul Chambers, Art Taylor. Red Garland qui a beaucoup écouté Bud Powell ici dans le thème de Charlie Parker avec Paul Chambers et Art Taylor en 1956, mais avec un toucher très différent de celui de Bud Powell là pour le coup.
Il arrive à garder un toucher toujours léger, alors que jouer à ce breakneck tempo, comme disent les Américains,
c'est... À se briser le cou.
À se briser le cou, oui, breakneck tempo, j'aime bien cette expression. Jouer avec ce toucher-là, il n'y a pas grand monde qui a cette technique-là. Je veux dire, on pense à Hank Jones tout de suite, là. Mais aussi, on pense à un saxophoniste. Moi, j'entends bien que Red Garland a été saxophoniste alto. Là, on entend bien l'influence du saxophone dans son phrasé. C'est évident qu'on entend vraiment.
Si on pense à la main droite, alors si on pense maintenant à la main gauche, je vous propose de l'écouter dans un morceau qui était d'ailleurs un thème fétiche de Bud Powell et aussi d'Art Tatum. C'est Alléluia, c'est un vieux thème. Et on va l'entendre ici en prenant attention à sa main gauche, vous verrez, très minimaliste. Thank you. La quintette de Red Garland avec Donald Byrd à la trompette, John Coltrane au ténor, George Joyner à la contrebasse, Art Taylor à la batterie en 1957 sur cette Hallelujah où effectivement on voit qu'on est loin du pianiste de bar ici,
ah oui.
C'est un pianiste bebop avec une main gauche qui tisse des lignes très discrètes mais tout à fait efficaces.
Ah oui, on l'entend quasiment pas pendant à peu près une minute cette main gauche, et puis quand on l'entend elle est tellement discrète qu'il faut tendre l'oreille. C'est une main gauche minimaliste que Bud Powell utilise aussi sur ce genre de tempo, hein. Il utilise vraiment une main gauche tellement discrète qu'on peut la qualifier de minimaliste.
Alors, il faut tout de même résoudre le cas Ahmad Jamal.
On y arrive.
Parce que très souvent, on a tendance à dire que Red Garland a pris à Ahmad Jamal. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que vous pensez que c'était deux chemins parallèles ?
Il s'agit plutôt de deux musiciens qui ont exactement les mêmes goûts ou en tout cas les mêmes idoles. Parce
les,
que
mêmes références,
les mêmes références.
Jamal adorait Garner, il connaissait très bien Garner.
Alors, oui, Ahmad Jamal vénère Errol Garner et Nat King Cole. Ce sont ses dieux absolus. Il le dit, hein, il le dit dans toutes ses interviews. Red Garland vénère aussi Errol Garner et Nat King Cole. Ce sont aussi ses dieux. Mmh. Ils sont tous les deux les premiers fans d'Errol Garner et de Nat King Cole.
Mais Miles Davis a demandé à Red Garland de reprendre des thèmes qui avaient été popularisés par Ahmad Jamal. C'est peut-être ça qui a favorisé la confusion.
Je pense que c'est cela, effectivement. Bon, le fait que Miles Davis aussi criait sur tous les toits que Jamal était un génie, ce qui est vrai. Mais c'est surtout, effectivement, le fait que Red Garland a dû enregistrer un arrangement d'Ahmad Jamal sur une chanson enfantine qui s'appelle Billy Boy. Malheureusement, ça a porté à confusion puisque c'était un succès, entre guillemets, de Ahmad Jamal qui a été repris note pour note par Red Garland. Peut-être que la confusion vient de là.
Red Garland l'a rejoué plusieurs fois, ce Billy Boy, et on va écouter la version où il ne reprend pas exactement note à note l'arrangement de Ahmad Jamal. On écoute d'abord Ahmad Jamal avec son trio avec guitare en mai 1952 à Chicago. C'est Ray Crawford à la guitare et Eddie Calhoun à la contrebasse. Et puis on écoutera ensuite Red Garland avec Paul Chambers et Philly Joe Jones dans ce même Billy Boy. La version de Billy Boy par le trio d'Ahmad Jamal en 1952 avec Ray Crawford et Eddie Calhoun. On entend bien les blockords ici, un petit peu comme chez Garland. Alors,
exactement, on entend effectivement les blockords main droite qui viennent de Garner, comme on a montré tout à l'heure dans l'émission. Donc on les entend dans l'exposition du thème et aussi vers la fin dans le solo. Donc il utilise lui aussi, Ahmad Jamal, ses blockords main droite. Et lui aussi a un toucher léger, notamment dans l'aigu du piano qui vient de Nat King Cole. Donc effectivement, ils utilisent tous les deux les mêmes ingrédients. En sachant que la moitié de la recette vient d'Errol Garner et l'autre moitié de Nat King Cole. Ils ont sûrement trouvé un peu la même chose au même moment.
Billy Boy maintenant par Red Garland en 1958. C'était en février 1958, le trio de Red Garland avec Paul Chambers et l'impérial Philly Joe Jones à la batterie dans ce Billy Boy repris du répertoire d'Ahmad Jamal quelques années plus tôt. Red Garland ici extrêmement offensif, très bluesy aussi, ce que n'est peut-être pas Ahmad Jamal.
Oui, puis le phrasé est quand même plus musclé là. Hein, ouais. Bon, c'est vrai que le tempo est plus soutenu que la version de Jamal, puis Philly Joe y est pour beaucoup, ça groove hein, vraiment. Et bon, il a un phrasé plus musclé, c'est plus bebop que Jamal. Finalement, Jamal n'est pas si influencé que ça par Bud Powell. Et puis, il n'a pas joué de saxophone alto. Donc, Garland se différencie par cet aspect-là. On entend bien l'influence du saxophone aussi dans son jeu. Et en tout cas, on entend bien l'influence du bebop et de Bud Powell. Mais c'est, comme on l'a dit précédemment, c'est quand même plus léger.
Et puis, une chose qui manque aussi peut-être à Ahmad Jamal, c'est l'ancrage profond dans le blues du sud des États-Unis que Red Garland possède tout à fait.
Voilà. En fait, les points communs entre Jamal et Garland, on en a parlé, ce sont Errol Garner et Nat King Cole, qu'on entend évidemment dans leurs jeux respectifs. Mais ce qui différencie profondément Jamal et Garland, c'est que Garland est un très, très grand joueur de blues, principalement les blues lents aussi, et ce que les Américains appellent les ballades bluesy, c'est-à-dire ces standards qui sonnent comme des blues, mais qui ne sont pas des blues, hein, comme Blues in the Night, par exemple.
Ou ce Style Junction qu'il enregistre
qui est un blues.
En 1957, avec George Joyner à la basse, Art Taylor à la batterie, et on retrouve Coltrane à ses côtés au ténor. John Coltrane nous pardonnera de ne pas l'entendre davantage aux côtés de Red Garland, George Joyner et Art Taylor en novembre 1957. C'était Soul Junction, une composition de Red Garland, pianiste de blues. Ici, on l'entend bien, Pierre-Christophe.
On est à l'église, là. On a le preacher du sud des États-Unis. Il ne faut pas oublier que Red Garland est du Texas et qu'il a grandi autour du Texas et de Kansas City aussi. Donc, on pense à Ray Charles, à Ray Bryant, un pianiste aussi un peu oublié. Et en tout cas, on entend la tradition du blues et du gospel développée sur plus de 8 minutes, là, par exemple. C'est assez étonnant. Hein. Les autres pianistes ne font pas ça à l'époque. Hein.
Et que Red Garland va reprendre sur un certain nombre de ses disques. Il enregistre beaucoup à cette époque-là.
Et il enregistre beaucoup et il enregistre beaucoup de blues lent.
À la fin des années 50, Miles Davis va trouver d'autres pianistes à ses côtés, Wynton Kelly, puis Bill Evans. Et parallèlement, Red Garland va évoluer. Son jeu va peut-être un petit peu s'assombrir.
Bon, Red Garland n'est pas sans travail. Hein. Entre 56 et 62, j'ai comptabilisé environ 30 albums en tant que leader, ce qui est énorme, hein, entre 56 et 62, plus tous les albums qu'il enregistre en tant que sideman avec, on a dit Miles Davis, mais aussi des albums de John Coltrane, Sonny Rollins, Jackie McLean, Phil Woods, Art Pepper, Curtis Fuller, Coleman Hawkins, Arnett Cobb, Eddie Davis, etc. Donc il est très très présent. Alors même s'il ne travaille plus avec Miles Davis, il est très présent sur la scène new-yorkaise. Mais on sent un petit changement, effectivement, son jeu s'assombrit, notamment dans les ballades. Vous allez entendre quelque chose d'assez étonnant.
Stella by Starlight, 1959, il est en trio avec Sam Jones et Art Taylor.
Thank you.
11 décembre 1959, Sam Jones et Art Taylor aux côtés de Red Garland pour ce Stellar by Starlight, presque crépusculaire.
Ah oui, c'est très très sombre. Hein,
c'est Red Garland qui est déjà malade, atteint par des problèmes personnels, comme on dit.
Il ne va pas tarder à quitter New York et à arrêter le métier. Hein. Aux alentours de 1963, il retourne à Dallas.
Dont il est originaire.
Voilà, il n'y a même pas de piano dans son appartement.
Oui, cela, ce n'est pas pour de bonnes raisons, effectivement.
À la fin des années 50, il faisait partie des musiciens qui avaient des problèmes de drogue. Et il retourne à Dallas et heureusement pour lui, il vide ses royalties parce que Prestige publie régulièrement, hein, jusqu'au début des années 70, la pile, le stock d'enregistrements
qu'il a fait. Ils ne sont pas tous sortis en fait, ils sont sortis peu à peu, voilà. Après même le retrait de la scène de
Red Garland. Donc il est absent de la scène du jazz, complètement absent, hein, mais pas de l'actualité discographique puisque les disques continuent à apparaître jusqu'au début des années 70.
Et il va revenir à la fin des années 70, il a réglé ses problèmes.
Il est très fragile de point de vue santé, donc il n'aime pas trop voyager. Il va quand même aller jouer au Japon et sur la côte ouest, mais il n'est pas en très grande forme physique, Red Garland, à la fin des années 70, mais il a sûrement le désir de redémarrer ou en tout cas de commencer une deuxième carrière.
En tout cas, il renoue avec le contrebassiste Sam Jones. Et puis à la batterie, ici, il y a un petit nouveau qui doit probablement beaucoup le stimuler, c'est Al Foster.
Oui, c'est étonnant d'ailleurs d'entendre deux générations. Al Foster pourrait être son fils, tout à fait. Ouais.
It's all right with me. Thank you. 15 mai 1978, avec Sam Jones à la contrebasse et Al Foster à la batterie, Red Garland proclame « It's all right with me ». Est-ce qu'il faut le croire, Pierre-Christophe ?
Ça revient doucement, alors c'est sûr. Hein. Pourtant, il y a seulement 55 ans, mais on n'a pas joué depuis une dizaine d'années, hein. En gros. Hein. Donc, ça revient.
On entend les blocs cordes, voilà, on entend les ponctuations de main gauche de temps à autre.
Voilà, mais c'est un Red Garland qui a quand même changé. Voilà, c'est plus le Red Garland des années 50. Là, il est plus dans la lignée des Tommy Flanagan, Hank Jones. Il se confond un petit peu avec ces pianistes-là par moment.
Il n'a plus la finesse de toucher qu'il avait dans les années 50.
Non, non. Mais bon, le tempo est très rapide là aussi. Oui. Hein. Mais par contre, on le sent vraiment revigoré, je trouve, moi, quand même. Là. Il est propulsé par un batteur d'une autre génération et d'un jeu plus moderne, entre guillemets. Et de toute façon, son jeu a évolué avec la vie et même son répertoire a évolué. Parce que là, c'est un standard de Cole Porter, mais il va aussi enregistrer des choses assez étonnantes.
Oui, il va disparaître quelques années plus tard, en 1984. Il aura 61 ans au moment de sa disparition. C'est encore très jeune. Mais précisément, avec ce disque, avec Sam Jones et Al Foster, il propose aussi d'autres voix, comme cet hommage à l'Amérique à travers la Symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak. En tout cas, il emprunte le thème du deuxième mouvement, Going Home. C'est un thème soi-disant folklorique. En fait, c'est un thème totalement écrit par Dvorak.
Oui, tout à fait. On va entendre là un Red Garland complètement inspiré, je trouve, avec une très belle introduction. Et il prend son temps pour développer son solo et c'est très beau. Et c'est un pianiste, malheureusement, qui disparaît prématurément pour avoir une vraie deuxième carrière, comme a eu Tommy Flanagan, par exemple, qui lui aussi revient à la fin des années 70. Mais par contre, il en profite vraiment dans les années 80-90. Et Red Garland, malheureusement, non, disparaît trop tôt pour bénéficier du deuxième carrière, en fait.
On se quitte avec ce Going Home sous les doigts de Red Garland avec Sam Jones et Al Foster, toujours en 1978. Merci beaucoup, Pierre-Christophe, d'être venu ce matin dans cette émission pour évoquer la personnalité de Red Garland. On vous retrouve tout à l'heure à 14h dans le concert de l'après-midi de Anne-Charlotte Raymond pour le concert que vous avez donné samedi dernier dans la série Jazz sur le vif organisée par Xavier Prévost, qui diffusera lui aussi ce concert le 31 mai prochain à 23h dans le Bleu la Nuit. On vous retrouve en concert, alors là, sur le vif, sur la scène du River Café. C'est à Issy-les-Moulineaux, en compagnie de Géraldine Laurent, vendredi prochain, le 11 avril. Merci à Catherine Déréthé et Guillaume Ledu pour la prise de son de cette émission. Léo Duroy a accordé le piano. Dorothée Gall nous a aidé à préparer cette émission que Christine Amado a réalisée comme chaque semaine. Vous pouvez la réécouter sur le site de France Musique, francemusique.fr. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner au podcast.